Chaque civilisation doit affronter une force inconsciente, susceptible d'annuler, de dévier ou de contrarier presque toute intention consciente de la collectivité. Théorème Tleilaxu, non vérifié. Paul s'assit au bord de son lit et entreprit d'ôter ses bottes. Elle dégageait l'odeur rance qui était celle du lubrifiant des pompes à talons du distill. Il était tard. Il avait prolongé son habituelle promenade nocturne et ceux qu'il aimait s'en étaient inquiétés. Dans les rues d'Arakin, qu'il attirait chaque soir et qu'il parcourait seul, le danger pouvait guetter, mais c'était un danger qu'il savait pouvoir reconnaître et affronter. Il jeta ses bottes dans un coin de la chambre, près de l'unique brilleur, et passa aux fixations de son distill. Grands dieux inférieurs, comme il était là. La fatigue, cependant, n'engourdissait que ses muscles. Ses pensées restaient parfaitement nettes. Il éprouvait une envie intense de partager la vie des gens d'Arakin, de participer à leurs activités. Un empereur ne le pouvait pas, mais quelqu'un d'anonyme le pouvait. Quel rare privilège que de se faufiler entre les pèlerins mendiants et d'entendre parfois un Fremen insulter un marchand. « Tes mains sont humides !» Il sourit au souvenir de ces instants tout en ôtant son distill. Nu, immobile, il était étrangement en harmonie avec ce monde qui était le sien. D'une, ce paradoxe, cette forteresse assiégée qui était le cœur du pouvoir. Mais n'était-ce pas le destin inéluctable du pouvoir que d'être assiégé? Le contact rêche du tapis sous ses pieds lui ramena la sensation du sable dans les rues d'Arakin. Balayé par les vents depuis la muraille rocheuse du bouclier, brassé par les pieds innombrables, il se changeait en poussière, une poussière étouffante qui encrassait les filtres des distilles et dont, même à présent, il percevait l'odeur en dépit des aspirateurs qui fonctionnaient en permanence sur les portails de la citadelle. Une odeur tout imprégnée de souvenirs du désert. Autre jour, autre danger. Le danger qu'il pouvait rencontrer dans les rues d'Arakin semblait bien mineur comparé à celui qu'il avait affronté en ses jours anciens. En revêtant son distille, il revêtait le désert tout entier. Tout se passait comme si le distille, avec son appareillage complexe destiné à recycler l'eau de son corps, transformait ses pensées de quelque façon subtile, les orientait selon un schéma qui était celui du désert. Son distille faisait de lui un Fremen sauvage, un étranger dans sa cité. Il abandonnait la sécurité, il retrouvait la violence et les vieux pouvoirs. Les pèlerins, les gens de la cité, baissaient les yeux en le croisant. Prudent, il préférait ignorer les farouches habitants du désert, les laisser à leur solitude. Pour eux, le désert avait un visage aux yeux bleus à demi dissimulé sous les filtres d'un distill. En vérité, le seul danger était que quelqu'un surgit des jours passés, des jours du siège, vienne à l'identifier par sa démarche, son regard, son odeur. Mais les risques de rencontrer ainsi un ennemi étaient extrêmement réduits. Un chuintement, un reflet de lumière l'arrachèrent à sa rêverie. Shiny entra, portant le plateau de platine sur lequel était servi son café. Deux brilleurs la suivaient. Ils s'immobilisèrent selon la disposition habituelle, l'un à la tête du lit, l'autre à quelque distance de Shiny, éclairant le plateau. Il y avait dans chacun des gestes de Shiny une sorte de force fragile, contenue, vulnérable. Comme elle se penchait, il retrouva un reflet des premiers jours. Il y avait toujours quelque chose d'un elfe dans ses traits. Il semblait que les ans qui s'étaient écoulés n'aient eu aucune prise sur elle. Pourtant, un examen attentif révélait au coin de ses paupières ces fines rides que les Fremen appelaient les sillons des sables. Comme elle soulevait le couvercle, prenant entre le pouce et l'index le cabochon d'émeraude de Hagar, un peu de vapeur s'éleva dans la chambre. Elle remit le couvercle en place et Paul comprit que le café n'était pas encore prêt. Son regard s'attarda sur le pot d'argent dont la forme gracieuse évoquait la silhouette d'une jeune femme enceinte. Ce pot était une ganima, un objet précieux qui lui était revenu de droit lorsqu'il avait triomphé en combat singulier de son propriétaire, Jemis. Oui, c'était bien ainsi qu'il s'appelait, Jemis. Étrange forme d'immortalité. Jemis y avait-il songé à l'instant où il avait su que la mort pour lui était inéluctable? Shiny mit en place les tasses de poterie bleue. Trois. Deux pour ceux qui allaient boire le café et une pour ceux auxquels avait appartenu la Ganima. Encore un instant, dit-elle. Elle leva les yeux et le regarda. Il se demanda alors comment elle le voyait en cet instant. Était-il encore l'étranger exotique, maigre et vigoureux, mais gonflé d'eau si on le comparait au Fremen? Était-il encore Ouzoul qu'il avait connu dans le Tau Fremen, alors qu'il n'était que des fuyards lancés à travers le désert? Il se contempla dans un miroir. Ses muscles étaient restés longs et fermes. 12 années de règne ne lui avaient apporté que quelques cicatrices supplémentaires. Ses yeux, totalement bleus, étaient maintenant ceux d'un véritable Fremen, à cause de l'épice. Mais le nez pointu était celui d'un Atréide. Il était bien le petit-fils de cet Atréide qui avait trouvé la mort dans l'arène en distrayant son peuple. Il lui revint en esprit une phrase du vieil homme. « Qui gouverne assume une responsabilité irrévocable envers ses sujets. Tu es le pâtre d'un troupeau. Cela exige parfois un acte d'amour désintéressé qui peut n'être qu'amusant pour ceux que tu gouvernes. » Les gens se souvenaient encore avec affection du vieil homme. « Et moi, qu'ai-je fait pour le nom des Atréides ? » songea-t-il. « J'ai lâché le loup parmi les moutons. » Un bref instant, il perçut les résonances de mort et de violence contenues dans son nom. « Au lit, à présent !» dit Shiny sur un mode autoritaire qui eût choqué les loyaux sujets de l'Empire. Il obéit et croisa les mains sous sa nuque, se laissant bercer par les gestes familiers et gracieux de Shiny. Comme son regard parcourait la pièce, il se sentit vaguement amusé par tout ce qu'il voyait et qui était bien loin de correspondre à ce que le peuple devait imaginer. Sur l'étagère derrière Shiny, les brilleurs créaient des jeux d'ombre dans des bocaux de verre colorés au contenu divers, onguents, parfum du désert, une poignée de sable du siège taber, une mèche des cheveux de leur premier-né, mort depuis longtemps, mort depuis 12 ans. Mort en innocent dans la bataille qui avait fait de son père un empereur. Le parfum du café d'épices emplit la pièce. Paul le huma et son regard se posa sur une coupe jaune à côté du plateau. La coupe contenait des glands. Le détecteur de poison disposé près de la table étendit ses pattes d'insectes au-dessus de la coupe. Paul en ressentit une soudaine colère. Jamais à l'époque où il vivait dans le désert, il n'avait eu besoin de détecteur. « C'est prêt, » dit Shiny. « As-tu faim ?» Il refusa d'un ton rogue. À la même seconde, une navette chargée d'épices décollait en sifflant du port d'Arakin. Shiny lut la colère sur son visage. Elle servit le café et posa une tasse à portée de sa main. Puis elle s'assit au pied du lit et entreprit de lui masser les jambes. Les muscles devenaient douloureux lorsque l'on marchait longtemps avec le distill. D'une voix douce, sur un ton désinvolte qui ne trompait nullement Paul, elle dit enfin « Si Irulan désire un enfant, nous devrions en parler ?» Il observa longuement. Irulan n'est revenue de Wallach que depuis 2 jours. Elle s'en est déjà prise à toi ?»«
Nous n'avons pas évoqué ses frustrations, » dit Shiny.
Paul mit son esprit en état de vigilance. Il observa Shiny avec cette minutie, cette précision Bene Gesserit que lui avait enseigné sa mère, trahissant ainsi le vœu de silence des sœurs. Il n'aimait pas user de ses moyens avec Shiny. Une part de son attrait, du pouvoir qu'elle avait sur lui, provenait justement du fait qu'il n'en avait que rarement besoin avec elle. Shiny évitait en général d'aborder des questions indiscrètes. Elle se conformait par là au principe de courtoisie Fremen. Elle s'en tenait plutôt aux questions pratiques et surtout à ce qui concernait la position de Paul. Son pouvoir sur le conseil, la loyauté des légions, les pouvoirs et les talents de ses alliés. Sa mémoire était un véritable index de noms et de détails. Elle pouvait réciter la liste complète des faiblesses majeures de tous les ennemis connus, citer le potentiel de force en présence, les plans de bataille des chefs militaires et les capacités de production des grandes industries. Alors, songea Paul, pourquoi abordait-elle maintenant le problème d'Irulan ?
J'ai jeté le trouble dans ton esprit, dit-elle. Ce n'était pas mon intention.
Et quelle était ton intention ? Elle eut un sourire timide en affrontant son regard.
Si tu ressens de la colère, mon amour, je t'en prie, ne la cache point.
Il se renversa en arrière, appuya la tête contre le montant du lit. Puis-je la répudier ? Elle m'est moins utile à présent, et les choses que je devine à propos de ce voyage me déplaisent.
Tu ne la répudieras pas,
dit Shiny tout en continuant de lui masser les jambes.
Tu m'as dit bien des fois qu'elle constituait un lien avec tes ennemis, que tu peux deviner leurs plans au travers de ses actes.
Alors pourquoi veux-tu parler de son désir d'avoir un enfant ?
Je pense que si elle était enceinte, elle deviendrait plus vulnérable, et nos ennemis seraient déconcertés.
Dans le mouvement de ses doigts, il lut ce que cette phrase lui avait coûté. Sa gorge se noua. D'une voix douce, il répondit « Shiny, ma bien-aimée, je te fais le serment de ne jamais l'inviter dans mon lit. Un enfant lui conférerait trop de pouvoir. Souhaiterais-tu qu'elle te remplace ?»«
Je n'ai nul titre. » »«
Ne parle pas ainsi, Sihaya, mon printemps du désert. » »« Et pourquoi cette soudaine inquiétude à propos d'Irulan ?»«
Je m'inquiète pour toi et non pour elle. » Si elle enfantait un Atréide, ses amis mettraient en doute sa loyauté à leur égard. Moins ils lui feront confiance, moins elle sera utile à leur cause.
Un enfant d'Irulan pourrait signifier ta mort, dit Paul. Tu es au courant des complots qui se trament. Il eut un geste vague qui englobait la citadelle tout entière.
Il te faut un héritier ?
Grommela-t-il. C'était donc cela. Shiny ne lui avait pas donné d'enfant. Donc il fallait bien qu'il en eût un ailleurs. Pourquoi pas avec Irulan ? C'était là un raisonnement typique de Shiny. L'enfant ne pouvait être conçu que dans un acte d'amour, puisque les tabous impériaux contre les moyens artificiels étaient toujours aussi puissants. Shiny venait de prendre une décision fremen. Sous ce nouvel éclairage, Paul se pencha sur son visage. En un sens, il lui était bien plus familier que le sien. C'était un visage où il avait lu la douceur et la passion, la langueur du sommeil, le trouble de la peur, de la colère, du chagrin. Il ferma les yeux et l'image de Shiny dériva vers les souvenirs. Shiny enfant, voilé au temps du printemps, chantant, s'éveillant à ses côtés. Shiny en une image dont la perfection le brûlait à travers les années. Elle lui souriait, timidement d'abord, puis avec contrainte, comme si elle luttait contre la vision, luttait pour fuir. Il sentit sa bouche devenir sèche. Pendant un instant, l'âcre fumée de désastre à venir emplit ses narines, et il entendit une voix l'invitant à se retirer. Se retirer. Se retirer. Il y avait si longtemps que son regard de prophète sondait l'éternité. Si longtemps qu'il captait des bribes de langages étrangers, si longtemps qu'il épiait les pierres, qu'il guettait une chair qui n'était pas la sienne. Depuis le jour où il avait eu connaissance du but terrible auquel il était voué, il avait ainsi interrogé l'avenir, espérant y découvrir la paix. Il existait un moyen, cependant. Il le connaissait par cœur, sans toutefois en connaître le cœur. Un avenir dont les instructions rigoureuses étaient « se retirer, se retirer ».